Nous ouvrirons la parole de Dieu dans le prophète Jérémie, au chapitre 17. Nous lirons les versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur et demeure dans les lieux brûlés du désert sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse et sans inquiétude et ne cesse de porter des fruits. Que l'Éternel bénisse la lecture de cette parole. Amen.
J'aime les arbres. J'ai deux arbres que j'apprécie beaucoup ici sur la commune de Damary. Un se trouve très près d'ici. Si vous sortez, que vous prenez l'avenue Foch sur votre gauche, vous remontez jusqu'au prochain arrêt de bus. Là, il y a un croisement avec une autre rue. Et derrière la maison qui est à l'angle, du côté gauche, tout à côté de l'arrêt de bus, il y a un arbre magnifique. Vous le connaissez ? C'est un cèdre du Liban, d'une énorme beauté. Chaque fois que je passe dans cet endroit-là, je ne peux m'empêcher de regarder cet arbre avec admiration. Un petit peu plus loin, si vous passez par le centre de la ville de Damary, que vous dépassez la mairie, l'église, vous arrivez au château Soubiran où se célèbrent les mariages civils. Dans la cour de ce château, entre la salle des mariages et l'écurie où se trouvent les chevaux de la police montée de Damary, il y a une merveille. Vous l'avez déjà vue ? Un platane d'une taille extraordinaire, impressionnant. Et chaque fois que je passe devant lui, je suis vraiment béat d'admiration devant un arbre de cette taille, de cette majesté. Bientôt, je vais aller avec nos amis de la Fédération France-Sud ouvrir le 8e camp meeting sur le moulin de l'Hérolle. Et quand j'arrive sur cette propriété, je suis accueilli par une merveille de la nature, un arbre extraordinaire, un de ces platanes qui vous laisse pantelant d'admiration devant la force qui se trouve dans un tel arbre. J'aime les arbres. Je pourrais chanter, comme Georges Brassens, auprès de mon arbre. Je vivais heureux, je n'aurais jamais dû le quitter des yeux. Un jour, le Seigneur Jésus a rencontré un homme qui était aveugle. Vous trouvez cette histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Et je vous invite à ouvrir ce texte parce qu'il est très spécial. Dans ce chapitre 8 de l'évangile de Marc, il y a cette histoire qui commence au verset 22 et qui nous dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres. » En général, quand on lit ce texte, on continue et on voit que Jésus s'y reprend une deuxième fois pour lui donner une vue qui nous paraît plus claire. Mais parfois, je me demande si ce que nous prenons pour un coup d'essai de Jésus n'était pas le coup de maître. Je vois les hommes comme des arbres. Et je me demande si ça, c'est pas la vision de l'éternité, alors que voir les hommes comme des hommes, c'est peut-être la vision du temps présent avec toutes ses misères. Je vois les hommes comme des arbres. Vous connaissez tous le premier psaume qui dit que l'homme est un arbre, un magnifique arbre. L'homme qui est fidèle à Dieu se développe comme un arbre. Alors je crois que, en cette période de congés, de vacances, où nous pouvons peut-être prendre un peu plus de temps pour admirer la nature que Dieu a créée, il peut valoir la peine de réfléchir un peu sur les arbres et peut-être de regarder davantage les êtres humains comme des arbres. Jésus a raconté une parabole bien connue qui nous montre l'une des leçons que Jésus souhaitait nous voir tirer de l'admiration des arbres. Il dit, voilà, la plus petite semence, c'est le grain de moutarde. Vous semez ça et dans votre jardin, ça devient une plante assez grande pour dépasser les légumes de votre jardin et pour devenir un arbre, dit-il, dans lequel les oiseaux peuvent même venir faire leur nid. La première leçon que Jésus souhaite nous donner, c'est une leçon de croissance. Nous sommes là pour grandir, et quand on plante un arbre, ce que l'on espère, c'est qu'il grandisse, qu'il donne un jour des feuilles, qu'il porte des fruits, et qu'il soit à même d'abriter des oiseaux venus y faire leur nid. Déjà, on se rend compte que la façon dont Jésus exprime cet objectif de croissance n'est pas un objectif égoïste. L'arbre ne grandit pas pour lui-même. Ces feuilles qu'il va donner vont, grâce à ce merveilleux principe de la photosynthèse, nous fournir de l'oxygène, venir débarrasser notre atmosphère de ce gaz carbonique que nous rejetons et le transformer en oxygène pour que, grâce à l'arbre, nous ayons de quoi respirer, vivre. L'arbre peut donner du fruit et donc nourrir, bien évidemment. Mais dans cette image de Jésus, il est juste un lieu où des oiseaux peuvent venir construire leur habitation pour nicher, pour donner naissance à d'autres oiseaux. Et je me dis que peut-être il y a là une première leçon belle et importante pour chacune et chacun d'entre nous. Nous ne sommes là pas forcément pour nous-mêmes, mais d'abord pour les autres, pour les aider à respirer mieux et peut-être pour leur permettre aussi de construire leur place au soleil ou à l'ombre de notre arbre. Si les autres en arrivaient à dire, en pensant à chacun et à chacune d'entre nous, « Auprès de mon arbre, je vivais heureux », ce serait peut-être la réalisation de la croissance que le Seigneur veut pour chacune et pour chacun d'entre nous. La deuxième leçon que je trouve dans la Bible à propos des arbres, vous la connaissez très bien aussi. Jésus l'a dit dans son célèbre serment sur la montagne. Attention, il y a sur cette terre des faux prophètes, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un figuier porte des figues. Une vigne porte du raisin. Et effectivement, sur un poirier, vous n'allez pas cueillir des mangues. Sur un bananier, vous ne cueillerez pas des fraises. Peut-être dessous, et encore. Mais l'arbre de la Bible est un arbre qui porte des fruits. Et là encore, il y a quantité de choses dans la Bible qui montrent que c'est précieux, que ce n'est pas simplement le hasard de la nature qui fait que les arbres ont des fruits, que c'est Dieu qui, au troisième jour de la création, a fait que la terre produise des arbres qui peuvent se reproduire selon leurs semences, mais des arbres qui peuvent produire des fruits dont nous pouvons nous nourrir. Et ceci est de grande valeur. C'était tellement valable que dans bien des textes de la Torah, lorsque Moïse explique au peuple d'Israël comment il doit se conduire en tant que nation, il lui explique que quand il va prendre possession de la terre promise, il ne doit pas couper les arbres fruitiers. Au contraire, il doit les entretenir, les valoriser et s'en nourrir. Que quand il va partir à la guerre et devoir assiéger une ville ennemie, il pourra couper certains arbres pour faire les fortifications de ce siège, mais surtout pas les arbres fruitiers. Et c'est frappant de voir toutes ces recommandations qu'on trouve dans la Bible sur le respect des arbres fruitiers, la valorisation, tout ça parce que Dieu, à l'origine, a dit à l'être humain « Tu pourras manger de tout arbre du jardin. » Le fruit de l'arbre est quelque chose d'important et pour nos vies, c'est bien le défi que Jésus nous a donné. L'arbre qui ne porte pas de bons fruits, on va le couper, dit-il. Mais Jésus dit « Non, 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 attends encore une année. On va mettre de l'engrais, on va s'occuper de lui. » Et peut-être l'année prochaine, enfin, portera-t-il du fruit. Je me demande parfois combien d'années le Seigneur a dû penser ça de moi. Est-ce que je le garde encore, celui-là? Si peu de fruits, est-ce que ça vaut la peine? Le Seigneur est patient, plein de bonté, et il fait tout ce qu'il peut pour nous aider à porter du fruit. Mais il nous a donné la recette. Restez attachés. Que la branche soit attachée au tronc, que le sarment reste attaché au cep, et de cette façon, vous porterez du fruit. Pour le reste, le Seigneur fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il y a donc tout ce qu'il faut à notre disposition pour que nous puissions porter du fruit. C'est ce qu'il attend de nous et c'est merveilleux. Je n'oublierai jamais le jour où un de mes amis martiniquais m'a conduit dans le jardin de son grand-père. Il m'a dit « Je vais te faire tester ce que c'est qu'une mangue. » Mais il m'en a fait tester une douzaine différentes, de variétés différentes. J'avais l'impression d'être au paradis. C'est merveilleux, les fruits. J'aime les arbres, mais j'aime les fruits. Mais il y a dans les arbres quelque chose que peut-être nous n'apprécions pas à sa juste valeur. Nous connaissons, nous, adventistes, très bien les textes du prophète Daniel et les textes de l'Apocalypse. Alors je voudrais vous inviter à lire un texte de Daniel et tout à l'heure un texte de l'Apocalypse. Le texte de Daniel se trouve dans le chapitre 4 de ce livre. C'est une histoire que Daniel a rapporté, mais qui au départ a été raconté par le roi Nebuchadnezzar. Une aventure que ce roi a subie, pourrait-on dire. Mais dans cette aventure, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est décrit À partir du verset 10 de ce chapitre 4, voici comment le roi Nebuchadnezzar décrit ce qu'il a vu. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Magnifique ! Un arbre visible de toutes les extrémités de la terre, un arbre généreux dans son feuillage, dans la beauté qu'il représente, dans les services rendus par les fruits donnés, l'ombrage accordé, l'hospitalité donnée aux oiseaux comme aux autres animaux. Une merveille. Et vous savez que si nous lisons 10 versets plus loin, à partir du verset 20, Daniel, convoqué par ce roi, va lui expliquer le sens de ce rêve et va lui dire quelque chose d'extraordinaire. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi lesquelles les oiseaux, les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi. Ah, que j'aimerais que Dieu envoie un prophète pour dire de moi, cet arbre magnifique, c'est toi. Peut-être avons-nous trop l'habitude de lire ces textes avec des formes de lecture qui sont très critiques pour ce roi. Oh, c'est vrai qu'il a été critiquable et que ce roi, on a dû le couper comme les bûcherons coupent un tel arbre. N'empêche que dans le projet de Dieu, si je regarde cet homme comme un arbre, c'est une réussite humaine extraordinaire. Une réussite que j'envierais vraiment, parce que ce que Dieu souhaite, c'est que nous grandissions, que nous soyons comme cet arbre magnifique, que nous soyons utiles en déployant notre ombre pour donner du confort aux autres, en portant des fruits pour nourrir les autres, en apportant sécurité, paix à l'ensemble de la population qui peut bénéficier d'un tel arbre. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et cette description du roi Nebuchadnezzar est une description que je voudrais vous inviter à envier vraiment de tout votre cœur. Cette semaine, j'ai lu un petit livre qui a été écrit par un auteur français assez connu de la première moitié du XXe siècle. Un être né en Provence et qui a valorisé toute la Provence, cette belle province de France, Jean Giono, a écrit une petite nouvelle en 1953 qui est presque ignorée du public français, qui a eu beaucoup plus de succès dans les autres langues où elle a été traduite. Elle s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». En quelques pages, Jean Giono imagine quelque chose pour dire l'émerveillement qu'il a ressenti quand, après la Deuxième Guerre mondiale, Il a revisité une partie des collines de sa Provence natale. Il a remarqué que le matin, il y avait une brume sur ces collines, qu'en s'approchant, ces collines étaient couvertes d'arbres, que grâce à ces arbres, il y avait des ruisseaux dans les vallées, que les villages qui étaient sur les collines étaient de nouveau habités, qu'il y avait des enfants qui couraient dans les rues de ces villages, que les fontaines ruisselaient, que les gens pouvaient vivre et qu'enfin on pouvait replanter dans les champs l'orge, la lavande et les produits de cette belle province de France. Et Jean Giono rappelle que dans sa jeunesse, avant la Première Guerre mondiale, il avait parcouru toutes ces collines, lui qui était un marcheur. Elles étaient désertes. Il n'y avait presque plus rien. Quelques villages abandonnés ici ou là, de temps en temps un berger avec quelques maigres moutons. Et alors, ayant appris que toute cette transformation de cette région s'était faite parce que des projets de reboisement avaient été mis en place, il a imaginé l'histoire d'un de ces bergers qu'il avait croisé au cours de ses balades en 1913. Et de ce berger, il a fait un planteur d'arbres. Il explique que ce berger, tous les jours, choisissait une centaine de glands qu'il avait ramassés dans ses promenades, qu'il les faisait tremper dans l'eau et qu'il partait avec eux dans un sac. Et avec un bâton de métal, il faisait un creux dans la terre et plantait un gland, puis le recouvrait. Et s'efforçant ainsi chaque jour de planter au moins 100 chênes. Vous vous êtes déjà promené dans la forêt de Fontainebleau. Vous connaissez le chêne Sully, le chêne Charlemagne. Des arbres extraordinaires qui sont là, à notre portée, à quelques kilomètres de nous. Cet homme, imaginé par Jean Giono, plante 10 000, 100 000 chênes au cours de sa vie. Et il essaye de faire comprendre à son lecteur que c'est parce qu'il y a cette quantité de chênes et d'autres arbres plantés sur ces collines que l'eau revient, que la fertilité revient, que la vie se rétablit, que les villages renaissent, que les hommes et les femmes vivent, qu'ils ont des enfants et qu'ils peuvent vivre joyeux dans une région où le soleil brille, la pluie tombe, mais où les arbres ont été le signe collectif de la richesse que Dieu veut. Et je me suis demandé à la lecture de ce livre s'il n'y a pas là aussi une image de l'Église. Si chaque homme, chaque être humain peut être comparé à un arbre, ne vaut-il pas la peine de comparer l'Église à une forêt ? Un rassemblement d'arbres. Nous qui vivons à proximité de l'une des plus belles forêts de notre pays, nous devrions apprécier la forêt et tout ce que ça représente de beauté et de richesse. Quand la forêt est là, quand des arbres se pressent auprès des uns et des autres, la terre est protégée, l'eau revient, la vie renaît, les êtres humains peuvent occuper une terre désertique. Alors cette comparaison qui nous a été lue tout à l'heure du prophète Jérémie, de la maigre plante qui vit dans le désert, aux arbres grandioses et verdoyants qui poussent auprès des cours d'eau, se trouve peut-être la différence entre l'être croyant et les autres, entre l'être qui n'abandonne pas son assemblée et qui danse son église, et image de ce phénomène naturel extraordinaire qui fait que quand des arbres sont plantés les uns à côté des autres, la vie peut renaître pour toute une population et toute une région. Peut-être avons-nous là de quoi réfléchir sur ce que c'est que l'Église. Mais je vous ai promis un texte de l'Apocalypse. Je vous propose de le lire. Il est dans le tout dernier chapitre de ce livre. C'est le verset 2 du chapitre 22. Au milieu de la place de la ville, c'est la Nouvelle Jérusalem que l'apôtre Jean a vue en vision, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors vous me permettrez ce que peut-être certains appelleront une fantaisie ou ce que je peux voir aussi comme un acte de foi. Si, comme l'aveugle guéri par Jésus, je vois les hommes comme des arbres, je peux me demander si je n'ai pas là la plus belle image de l'être humain que Dieu veut voir naître, se développer dans sa nouvelle Jérusalem. Un être humain qui en est arrivé à un point de s'abreuver à la rivière de la vie qui est notre Dieu, au soleil de justice qu'il est, et qui, dans la forêt où il s'est développé dans l'Église, est capable de produire 12 fois du fruit dans l'année. J'ai vu au Cameroun jusqu'à 3 récoltes dans une année, mais jamais 12. Mais qui est capable aussi d'avoir des feuilles qui sont là pour donner de l'ombre, pour éviter des insolations, mais pour guérir les nations. Et je me dis que l'arbre transplanté dans la Nouvelle Jérusalem, c'est celui qui, dès maintenant, a cherché à être fruit et ombrage pour ceux qui sont à côté de nous et qui en ont tant besoin. Je souhaite être un tel arbre. Je vous le souhaite aussi. Amen.